Dad Gagnon pour le podcast tout seul, le numéro 28. Je parle plus très souvent d'actualité en ce moment, l'actualité étant que le coronavirus, je n'ai pas grand chose à dire. Et j'ai une opinion. Non, mais je ne suis pas un spécialiste, donc des opinions, quand j'en ai souvent, elles ne sont pas super pertinentes là, sur des faits. Mais là, il y a juste une chose qui me semble très intéressante à souligner, parce qu'un peu partout dans le monde, on parle de déconfinement, dans énormément d'endroits, en tout cas dans le monde. Et il y a une chose qui passe un peu sous silence, je trouve, c'est qu'il n'y a aucune logique de sécurité avec le déconfinement. La situation quand on est tous rentrés en confinement n'était pas pire qu'aujourd'hui pour les risques de l'attraper, pour les risques de la santé publique. Tout ce que j'ai lu dans la dernière semaine dit que, en gros, plus on connaît ce virus, moins on le connaît. On croyait que c'était une infection respiratoire. Et puis finalement, plusieurs chercheurs se demandent si c'est pas une maladie qui attaque directement le système immunitaire, soit en le rendant trop performant et puis tu t'attaques toi-même, ou sous-performant. Donc en gros, on en sait encore moins. En tout cas, maintenant on sait qu'on sait rien, alors qu'avant on pensait qu'on savait pas grand-chose. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'on va tous être déconfinés là? Et sincèrement, j'ai pas la réponse. À part le fait qu'on en a marre. J'ai l'impression que le confinement l'a vécu comme un abonnement à la salle de sport. On savait qu'il fallait le faire pour notre santé. Donc au début, on était motivé. Et puis finalement, on en a un peu marre. Et donc, on accepte l'idée de sortir. Et j'arrête pas d'essayer de me projeter 10 ans plus tard en disant, quand on va regarder en arrière et qu'on va voir la situation, tu sais, quand tu juges d'autres moments dans l'histoire en disant, comment j'ai réagi à cette époque-là dans l'histoire, mais il me semble qu'on est peut-être dans un de ces moments-là. Et je me dis, essaie de réfléchir en fonction de qu'est-ce qui te semble le plus logique si tu regardes ça avec du recul. Et tu regardes ça avec du recul, tu n'as pas besoin d'aller super loin. Le médecin en chef, là, pour utiliser une expression pas tout à fait exacte, au Québec, c'est Horacio Arruda. C'est une superstar des réseaux sociaux maintenant. Conférence de presse à tous les jours, il est expressif, il vulgarise bien, on se sent en sécurité avec lui. Et clairement, il est compétent. Et en faisant des recherches pour un autre sujet aujourd'hui, je suis tombé sur un article où le 5 février, il disait qu'on devait beaucoup plus craindre la grippe saisonnière, pas le rhume, la grippe saisonnière, que le coronavirus. En disant, on n'a pas encore toutes les données, mais c'est ça qu'il faudrait craindre le plus. Quand tu vois, il y a un mois et demi, normalement le chef d'État qui disait, le port du masque, c'est pas nécessaire. Ce qui tombait plutôt bien parce qu'il n'y avait pas de masque à offrir à la population. Les dernières stats qu'on a vues, si tout le monde porte le masque, donc tes risques de te faire infecter par quelqu'un qui l'est, mettons, si le fait de ne pas te porter de masque, tu as un risque à 100%, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais pour la comparaison, si vous portez tous les deux un masque, ça tombe à 1,5%. J'imagine que c'est pas une découverte des dernières journées, ça non plus. Enfin bref, c'était mon hot take sur la situation. Mais c'est juste fou parce qu'en faisant ces recherches, quelques petites recherches, de voir à quel point un article du mois de février semble avoir été écrit en 1922. Et si ça vous amuse, ce genre de choses-là, faites des recherches. Prenez le nom de quelqu'un qui prend souvent la parole et puis allez voir ce que cette même personne-là disait il y a un mois et demi. Genre, pour prendre l'exemple, en Belgique, pays que je connais plus pour avoir passé 15 ans de ma vie là-bas, ministre de la Santé, Maggie De Blocq, qui avait mis sur Twitter à deux personnes qui parlaient des dangers du coronavirus, en flamand, si je traduis, ça fait « Ne faites pas les drama queens ». Finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça, faire les drama queens. Il y avait deux petites choses dont je voulais parler aujourd'hui et qui ont tous les deux à voir avec la langue française. Je suis né, comme ça s'entend, au Québec. J'ai eu la chance de vivre en Belgique, de travailler quand même beaucoup avec des Français, quelques fois avec des Suisses. Et donc, j'ai un petit portrait des particularités de la langue dans différents pays. Et forcément, c'est quelque chose qui me fascine depuis que j'ai quitté le Canada, donc il y a au moins une quinzaine d'années. Et je me rends compte une histoire qu'à chaque fois que je raconte, elle n'est pas super connue ni au Québec ni en Europe. Et quand on parle des différences et des particularités de la langue, en Europe, vous connaissez tous l'émission Les Bisounours, avec des petits oursons gentils, voilà. Au Québec, l'émission s'appelle Les Calinours. Même principe, même émission, c'est aussi un bisounours, calinours en soi. C'est deux, mais pour quelle raison est-ce que le nom de l'émission a été modifié? Eh bien, je suis tombé par hasard dessus il y a un certain moment et c'est devenu une de mes anecdotes préférées. La raison est très simple, c'est parce qu'au Québec, on ne pouvait pas appeler ça bisounours. Parce qu'une bisoune, c'est un mot d'argot pour dire pénis. Donc les pénisours, ça le faisait quand même bof bof moyen pour une émission pour enfants. Et je vous l'ai dit, je suis en train de préparer aussi un autre show sur les expressions françaises et ce genre de choses-là. Si vous en connaissez des anecdotes intéressantes sur des origines d'expressions ou des différences de la langue, pourquoi ça s'établit comme ça, envoyez-les moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les lire. Dans le même principe de la richesse de la langue française, j'ai su d'où venait, il n'y a pas très longtemps, l'expression « rocambolesque ». Et c'est non seulement une anecdote intéressante, mais aussi, c'est fascinant pour ceux qui, comme moi, aiment les histoires. En gros, Rocambole, c'est un personnage. Dans des journaux français de l'époque, c'était l'inspecteur Rocambole et il lui arrivait toujours des choses tirées par les cheveux, comme vous pouvez vous en douter. À un moment, l'éditeur appelle l'auteur et lui dit « Ok, bon, mais ça va être la fin de la série de Rocambole. Donc, si tu veux, tu peux tuer ton personnage. » L'auteur, très bien. Je me souviens plus exactement. Je crois qu'il le noie dans la scène ou quelque chose dans ce style-là. Donc, voilà, la série est finie, complétée. Merci, bonsoir. Un petit moment plus tard, le même éditeur recontacte l'auteur en disant « Tu sais quoi, on y a repensé. » Et en fait, on aimerait ça retrouver de nouvelles aventures avec l'inspecteur Rocambole. Est-ce que tu crois que c'est possible pour toi de trouver une manière de le ressusciter? L'auteur a dit pas de problème. Et je vous fais de mémoire le début de l'histoire suivante au retour de Rocambole. Comment est-ce qu'après une mort certaine et avoir bien expliqué que c'était la fin, il a pu ressusciter son personnage? De cette manière-là. Début de l'histoire. Après s'être tiré de ce mauvais pas, l'inspecteur Rocambole, c'est du génie. Après s'être tiré de ce mauvais pas. That's it. Et je trouve que c'est tellement une belle histoire pour te montrer à quel point parfois des choses qui te semblent importantes ne le sont pas. À quel point parfois des gros débats qui te prennent la tête peuvent être réglés hyper facilement après s'être sorti de ce mauvais pas. Voilà. C'est une manière tellement brillante de la part de l'auteur de dire à tout le monde « Oui, je sais, mais en fait, come on. C'est une fiction. Allons-y. » Et ce qui intéresse les gens, ben, c'était la fiction. Donc, on avait vite balayé la question sous le tapis, puis merci, bonsoir. J'adore ce truc-là. Et donc, l'expression « rocambolesque » vient de cet inspecteur Rocambole. La dernière chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'est un souvenir qui m'est revenu de quand j'étais petit. Et c'est un sujet qui je trouve super intéressant à partager avec les amis. C'est vraiment la chose que tu as comprise beaucoup trop tard. Moi, par exemple, j'ai appris à couper des oignons correctement il y a un mois. Je coupais ça au petit bonheur la chance et j'ai compris qu'il y avait une technique. En fait, on m'a fait remarquer que je faisais ça n'importe comment et puis j'ai appris une technique. J'ai appris, je crois, 10 ans après tout le monde qu'avec un petit peu de dentifrice, tu pouvais combler des rayures dans du verre, par exemple. Et ce genre de choses-là. Et j'étais... Voilà. Il y a un timing où quand tu le dépasses, tu sens un peu perdu. Et à d'autres moments, tu réalises beaucoup plus vieux que ce que tu croyais quand tu étais jeune ne fait finalement aucun sens. N'a aucun sens. Et ça, c'est toujours rigolo parce que souvent, c'est des choses auxquelles tu n'as pas pensé depuis tellement d'années, puis quand ça te revient, tu fais « Ah! » Comme quand tu chantais une chanson en anglais avant de parler anglais en faisant juste comme « Legos in the Fergalune ». Et un jour, en te rechantant tes fausses paroles, tu reconnais les bons mots d'anglais et tu es capable de refaire la bonne chanson et tu saisis les paroles. Eh bien, moi, il m'est arrivé un truc, voilà, comme ça quand j'étais plus jeune. Mon père, hein, avait un rasoir électrique. Donc, le rasoir électrique, il y avait une espèce d'autonomie, de pile dedans. Puis, le vendredi, il venait souvent, donc on se réunissait chez mon grand-père. Il était 7 dans cette famille, donc souvent, il y avait beaucoup de monde le vendredi. Ma grand-mère, je me souviens, cuisinait des petits pains. Et ces pains frais, elle les faisait dans des moules à muffins. Et donc, pour moi, un petit pain champignon, ça représente encore aujourd'hui les vendredis. Et elle mettait ça, donc elle faisait des fournées de pain. Et dans le milieu de la table, il y avait toutes sortes de pâtés, de confitures, de choses à mettre dessus. Et tout le monde, en fonction de son travail, en fonction de à quel point il habitait loin de chez mes grands-parents, arrivait à différentes heures. Et tout le monde, c'est une espèce de walk-in dinner à la bonne franquette. Et il y a quelque chose de très mignon dans ma famille. Il y a une de mes tantes, tous mes grands-parents sont décédés, et il y a une de mes tantes qui travaille assez fort sur le fait de préserver ses goûts-là. Et donc, quand c'est le 1er janvier, elle fait le repas traditionnel que ma grand-mère faisait. Et je sais qu'ils se réunissent à plusieurs, puis ils font des tests pour essayer de retrouver le goût exact. Parce que forcément, ma grand-mère a cuisiné avec un petit peu de ceci, un peu plus de cela. Et cet ingrédient, tu le mets au goût, ce qui rend à peu près impossible le fait de suivre des recettes. Et ils l'ont fait. Et elle a refait du pain. Et j'avais pas mangé ce pain depuis 10 ans. Et j'ai pu en manger récemment. Et voilà, ça vient de revenir en parlant. Bref, on est le vendredi. Chez mes grands-parents, c'est toujours un mood quand même déjà intéressant. Nous, le vendredi, mon père travaillait dans ce qu'on appelle une caisse populaire, donc c'est comme une banque, mais c'est une coopérative. Et il travaillait souvent, mais un peu plus tard le soir, parfois il y avait des réunions, mais le vendredi, il terminait en même temps que nous. On revenait de l'école, je sais pas, 4h moins quart, puis à 4h, mon père était souvent là, et c'était vraiment le moment où, pour faire une espèce de coupure avec la semaine, d'office on sortait. Et donc, les vendredis, c'était déjà spécial. L'école était finie. Je mettais mon sac à dos dans le coin. Je savais que je n'avais pas le retrouver avant le lundi. Je savais que j'avais d'office un match de hockey le samedi soir que je pouvais regarder jusqu'à la fin parce que je pouvais me coucher plus tard, parce que le lendemain, je pouvais me lever plus tard. Donc, le vendredi, c'était super. On allait chez mon grand-père et mes grands-parents. On ne savait jamais qui allait être là. Donc, mon parrain est là, cette fois-là. Et il est en train de se raser. Et il me regarde et il dit, tu sais quoi, il y a une nouvelle technologie avec mon rasoir. C'est vrai, quoi? Il dit, ça prend l'énergie qu'il y a dans tes mains. Hein? Et donc, il se présente à côté de moi. J'ai aucune idée quel âge j'avais. J'espère que j'avais 5-6 ans. Pas impossible que j'en ai eu 10-12. Et il y a toujours son rasoir électrique, donc branché, mais pas à la prise. Juste ce qui doit relier le rasoir à la prise. Voilà. Le côté de la prise, il le met dans mes mains. Et l'autre côté branche à son rasoir. Et dès que je ferme la main, le rasoir fait du bruit et s'active. Et je fais « wow ». Et donc, je le teste quelques fois. Je suis assez impressionné par la technologie et je laisse ça comme ça. En soi, c'est assez mignon et c'est un peu l'objectif de mon parrain. Tout le monde souriait. Fin de l'anecdote. Mais c'est il n'y a pas longtemps que j'étais chez moi et je crois que je me rase justement avec un rasoir électrique. Et en le branchant dans la prise, ce souvenir-là m'est revenu et vraiment tout seul, je me suis dit oh, en fait, c'est une batterie. Et il y a à peu près 30 ans de différence entre le gag et le moment où j'ai réalisé parce que c'était pas assez important pour que j'y repense dans ma vie. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et je sais, quand j'en parle avec mes amis, qu'eux aussi, ils ont eu un truc comme ça où ils ont cru longtemps quand ils étaient petits. C'est un souvenir qui était d'une certaine manière dans leur tête, et quand ils y ont repensé, ils se sont dit, mais en fait, ça ne fait aucun sens, et ils ont reconstruit leur connaissance correctement. Je vais faire un post là-dessus ce week-end, un sujet assez léger. J'aimerais ça voir vos histoires. Qu'est-ce que vous avez soit appris beaucoup trop tard, soit quel est le souvenir qui n'était pas du tout juste que vous vous étiez fait. Des connaissances qui sont arrivées beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite un excellent vendredi. Merci beaucoup de continuer à me suivre. Encore une fois, je vois qu'à tous les jours, on gagne des nouveaux abonnés sur Spotify. Merci beaucoup de venir nous rejoindre. Pour l'instant, tout le catalogue est disponible sur Spotify. Ça commence à l'épisode 4. Si vous voulez les trois premiers, c'est sur le Patreon, donc patreon.com/DanGagnonPodcast. Et quoi qu'il arrive, merci beaucoup de toute évidence continuer à en parler autour de vous. Ça marche. Je m'amuse. J'espère que vous aussi. Et je vous souhaite le meilleur week-end possible.